Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau Canu Info du jeudi. Nous parlions BD à l'instant avec Laurent parce que nous allons parler du Grand Prix d'Angoulême. Et oui, nous allons y revenir parce qu'il y a l'étape 6 ou 7, je ne sais plus bien où nous en sommes.
La blague du jour.
Mais avant tout ça, nous allons parler d'Air France par exemple, de Monsieur Le Guen aussi hein, par exemple. Nous partirons aussi à Bobigny, on parlera du sexisme à Europe 1. Nous parlerons du monde libre ou du capitalisme. Hein. C'est toi Laurent qui nous parlera des députés. On parlera un petit coup aussi des JO de Rio. Hein. C'est bientôt, là c'est dans quelques mois. Nous parlerons du bio aussi ce soir. Ça c'est Laurent qui va vous parler du bio. On reviendra un petit peu sur Renault et sur l'État français. On parlera de TAFTA et puis un petit peu d'énergie. Mais avant tout ça, je souhaiterais quand même amener mes meilleurs voeux. Il paraît qu'il est encore temps à ceux et celles qui vont partir à Pyongyang, ceux et celles du tout nouveau bureau de l'AFP. Et oui, je leur souhaite donc une belle année 2016 en Corée du Nord, puisque l'AFP a annoncé cette semaine, hein, c'était mardi, par la voix de son PDG Emmanuel Hogg, que ça y est, l'AFP s'installe en Corée du Nord, puisqu'il paraît qu'il y a une forte demande en photo et en matériel en provenance du pays. Alors en fait, l'AFP peut s'installer grâce à un accord avec l'agence KCNA, hein, c'est l'agence officielle nord-coréenne, qui donc lui autorise, hein, lui donne le droit de s'installer à Pyongyang. Alors évidemment, on se dit que tout ça va être bien bien contrôlé.
Oui, ils vont diffuser les informations officielles.
Alors, il y a déjà l'Associated Press hein, qui est là-bas. Ça, sinon, il y a l'agence Kyodo, c'est une agence japonaise qui a aussi une petite antenne, et puis l'agence chinoise Chine Nouvelle, hein, bien évidemment, qui est aussi installée là-bas. Mais Chine Nouvelle ne va pas trop contredire non plus la Corée du Nord, puisque c'est quand même un organe de la Chine, un organe de propagande. Pour rappel, le réseau de l'AFP, c'est 200 bureaux dans 150 pays, donc voilà, un pas de plus, pas vers la démocratie.
Vers la plus belle dictature du monde.
Voilà. Bonne année à vous, à l'AFP.
Bon courage. Allez, on commence avec en parlant de syndicats, et on va commencer par reparler de l'affaire de la chemise arrachée. Vous savez, ce grand moment de lutte sociale où le DRH de Air France se fait arracher, pas très violemment quand même, la chemise, et il s'enfuit tel le méchant criminel poursuivi par le gentil policier, ou l'inverse, le méchant policier poursuivi par le méchant criminel. Enfin bref, vous avez tous vu cette scène qui a été célèbre dans le monde entier, qui a été bien sûr appréciée de diverses manières, suivant si vous êtes pro-patronat ou pro-salariés. Donc nous, on était du côté des militants, bien évidemment. Et l'info du jour, et c'est une bonne nouvelle, puisqu'il n'y avait que des mauvaises nouvelles jusqu'à maintenant, c'est que l'inspection du travail, qui devait donner son avis sur le licenciement du délégué du personnel CGT, il aurait participé aux actions dites violentes, mais comme il est délégué du personnel, il est personnel protégé, donc il faut un accord de l'inspection du travail pour le licencier, pour la raison qu'on a évoquée juste avant. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inspection du travail a dit non, niet. Vous n'avez pas le droit de licencier ce délégué du personnel. Alors, ils ont bien sûr donné des raisons. Alors, les raisons, elles sont très variées. L'inspectrice du travail détaille vraiment les choses pour expliquer pourquoi, d'après elle, Eh ben, il y a des doutes, et notamment qu'elle explique que les faits invoqués, pris dans l'ensemble, ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute lourde commise par le salarié. Parce que même à travers les images de la vidéo, elle explique bien qu'on voit pas le, on voit pas vraiment le salarié pousser. En tout cas, on peut pas déduire la force de la poussée qu'il aurait émise, poussant les DRH, les vigiles ou les personnes se trouvant devant lui. Donc, il y a pas de preuve. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que jusqu'à maintenant, la direction d'Air France s'est appuyée sur l'idée qui était assez répandue, qui a été véhiculée hein, quand même par les médias dominants, que les militants syndicaux avaient été vraiment violents. Or, vraisemblablement, le DRH a eu plus peur qu'il n'avait vraiment de risque de se faire casser la gueule. Mais ils ont, tout le monde a instrumenté tout ça pour faire que on condamne une fois de plus les syndicats, les actions syndicales. Donc voilà. Alors bien évidemment, c'est une bonne nouvelle parmi plein de mauvaises nouvelles. On rappelle que les quatre autres salariés mis en cause ont eux été licenciés pour faute lourde aussi. Alors là, Air France est obligé d'accepter la décision. Ils ont un recours, hein, c'est demandé. Ce qu'il y a au-dessus de l'inspection du travail, c'est-à-dire la ministre, Myriam El Khomri, qui doit donc, elle, d'ici 4 mois, dire si elle confirme la décision de l'inspection du travail ou si elle s'oppose à la décision. Donc on en est là. Entre-temps, le salarié est obligatoirement réintégré dans Air France. Il doit toucher son salaire alors qu'il a été mis à pied sans salaire. Donc Air France va être obligé de le rembourser. Donc voilà. Et par la même occasion, on a appris, puisque Air France avait déposé plainte aussi, enfin c'était plein, ou en tout cas dans les motifs de licenciement, c'est qu'il aurait violenté aussi un vigile. Et l'inspection rappelle du travail rappelle qu'il est interdit d'avoir des vigiles, c'est-à-dire des intervenants d'entreprises de sécurité privées extérieures, lorsqu'il y a un conflit du travail. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que l'illégalité, elle n'est pas forcément du côté des syndicalistes, mais elle est vraiment du côté de la direction. Donc, la CGT a déposé plainte. Le salarié qui avait été licencié pour l'instant à tort, a priori, a lui aussi porté plainte contre Air France, puisqu'ils n'ont pas respecté la loi. Donc voilà, c'est l'arroseur arrosé quelque part. On va voir ce qui se passe. On sait que les dossiers sont instrumentalisés par le pouvoir socialiste, que le pouvoir socialiste est anti-syndical, et il y a quand même une très forte probabilité que Myriam El Khomri casse la décision de l'inspectrice du travail. Mais c'est pas sûr, donc on va attendre. Il y a 4 mois à attendre. Bon, elle peut se prononcer demain, hein, mais elle a 4 mois pour le faire. Et en parlant de syndicat, quand j'ai dit que le Parti Socialiste est anti-syndical, on a eu l'énorme réaction de Jean-Marie Le Guen, qui, alors ça faisait suite hein, au plan de à l'annonce du pseudo plan anti chômage de François Hollande, vous savez ce plan où il a repris quasiment le discours de Raymond Barre. Hein, je vous laisse lire le canard enchaîné de ce mercredi pour vous rendre compte que les mesures proposées par François Hollande étaient toutes dans un discours de Raymond Barre d'il y a plus de 20 ans, ministre on rappelle de droite. Ah c'est bizarre ça. Oui, François Hollande est économiquement de droite, vous allez me dire, d'accord. Ok, c'est finalement assez cohérent et logique. En tout cas, il fait partie, Jean-Marie Le Guen, de ceux qui sont allés soutenir le discours libéral, pro-capitalisme, anti-salarié de Stéphane Le Foll, d'Emmanuel Macron et de François Hollande à travers ses pseudo-mesures anti-chômage. Et il a fait sa sortie sur les syndicats et il a dit qu'il y avait trop de syndicats en France. Ah. Alors ça veut dire quoi, trop de syndicats? Trop de personnes syndiquées, ils sont trop puissants, il y a trop de noms de syndicats, parce que finalement qu'il y en ait plusieurs, enfin qu'il y en ait 10 ou 5, ça ne change pas grand chose. Si les 5 sont plus puissants que les 10, ça reviendra à peu près au même. Non, pas tout à fait, parce qu'il a en tête ce qui s'est passé à la FNAC, et c'est de ça dont il est un peu aigri, Monsieur Le Guen, mais comme tous ses copains socialistes mais à droite, puisque vous avez peut-être entendu qu'il y avait une décision qui devait être prise pour l'ouverture des magasins de la FNAC parisienne le dimanche. On rappelle l'histoire, hein, c'est qu'ils sont classés dans une zone touristique internationale. Alors on rappelle ce qui avait été dévoilé par le Canard Enchaîné, c'est qu'ils ont dessiné les zones touristiques internationales à Paris pour y intégrer les FNAC. Ça avait été assez louche, la découpe, quand on regarde sur un plan, elle n'est pas cohérente, la découpe, mais par contre, elle intégrait les FNAC. Donc, il y avait eu, peut-être, accord, en tout cas une négociation, en tout cas un truc très louche. Bon bref, depuis la loi Macron, quand on veut ouvrir régulièrement le dimanche, il faut négocier avec les syndicats et il y a un vote. Et courageusement, les syndicats CGT, FO et Sud ont voté contre l'ouverture des magasins le dimanche, ce qui a donc énervé les patronats, le patronat et leurs amis socialistes. Donc voilà, et c'est suite à ça que Jean-Marie Le Guen a tenu son discours anti-syndical assez traditionnel. On rappellera quand même que 3 syndicats avaient signé, mais c'était pas représentatif, pas assez en tout cas. Donc les traîtres habituels que sont bien évidemment la CFDT, mais aussi la CGE-CGC, hein, qui défend les cadres. Et d'ailleurs, bizarrement, les cadres ils travaillent beaucoup moins le dimanche quand les magasins s'ouvrent le dimanche. Il y a moins de cadres qui travaillent en proportion, bien évidemment, parce que c'est avant tout les vendeurs qui sont sollicités, les vendeurs et vendeuses. Donc voilà, c'est une bonne décision de la part des syndicats. Ça nous rappelle que la seule idée qu'a ce gouvernement socialiste, c'est de rester dans le monde libéral. C'est-à-dire que pour pouvoir créer de l'emploi, puisque la FNAC a annoncé 2,6% de création d'emplois s'ils avaient l'ouverture le dimanche, le seul moyen, c'est de faire consommer plus, c'est-à-dire d'avoir de la croissance, toujours plus, consommer toujours plus, jeter toujours plus, détruire toujours plus la planète, hein, parce que si on a 2,6% de croissance à la FNAC, on va acheter plus de produits, donc c'est des produits qui sont pas forcément utiles, sinon on les aurait pas forcément tous achetés. Du coup, on augmente le dégât sur la planète. Mais ils sont dans cette idéologie de la croissance comme seule solution à tous les maux, notamment celui du chômage. Donc, ils sont dans ce discours-là, ils ont tenu ce discours-là. On sent qu'il y a une cohérence gouvernementale, hein, autour de la politique économique libérale de François Hollande. Là, c'était Jean-Marie Le Guen qui, pour vous rappeler, est ministre des Relations avec le Parlement, si ma mémoire est bonne.
Oui, tu sais, moi, ça me rappelle... en fait, là, j'ai lu l'article correspondant à ce sujet sur le site du Figaro.fr. Et donc, j'ai été lire les commentaires. Et évidemment, beaucoup vont dans le sens de M. Le Guen. Les syndicats nous font chier. Ils cassent tous les accords. Ils ont empêché cet accord à la FNAC et ce travail le dimanche. Ce qui est très drôle, c'est que si aujourd'hui, il y a eu cette proposition de 200% d'augmentation, hein, pour le travail le dimanche, avec un certain nombre de cadres, il fallait que les gens soient volontaires, comme ci, comme ça. C'est bien parce qu'à un moment, les syndicats se sont opposés, ont dit non, le patronat propose toujours un peu plus. Parce que si jamais les syndicats, à l'époque, ne s'étaient pas opposés, aujourd'hui, les gens, ils iraient travailler le dimanche pour que dalle.
Pour le même salaire que
d'habitude. Il faut bien se le mettre dans le crâne. Donc, effectivement, il y a peu de syndiqués en France. Effectivement, on peut dire que les syndicats, dans les faits, ils ne représentent pas grand-chose au niveau démocratique, hein, au niveau d'une simple élection, mais n'empêche que leur opposition, faut pas le nier, elle permet aujourd'hui d'avoir un petit peu des avancées, ou en tout cas de pas s'en prendre plein la gueule, et ça les gens ont un peu tendance à l'oublier.
Voilà, on rappelle que dans les luttes, les syndicats ont fait gagner quand même pas mal de choses, même si les syndicats ont perdu sur le travail de nuit, hein, par exemple, autrefois il y avait que les hommes qui avaient le droit de travailler la nuit, on aurait pu imaginer...
Oui, c'est l'égalité maintenant,
voilà,
c'est
l'égalité,
super.
Du coup elle s'est faite dans le mauvais sens, les femmes ont l'obligation quelquefois de travailler la nuit, voilà, le travail des enfants a été supprimé, hein, contre l'avis du patronat, on le rappelle à l'époque. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui vont. Les syndicats défendent les salariés et pas le patronat. Hein. Ça, c'est clair. L'EPS défend le patronat.
Alors, on va partir maintenant à Bobigny et on va repartir au 8 juillet 2014, au soir. C'est 4 mois après l'arrivée de la nouvelle équipe municipale. Et le premier adjoint de cette mairie UDI, monsieur Christian Bartholmé et son collaborateur, excusez-moi, monsieur Boganam, convoque Sabrina Saïdi, qui est, elle, adjointe chargée de la petite enfance. Elle est convoquée sous un faux prétexte, et lorsqu'elle arrive, c'est un interrogatoire qui va durer longtemps, près de 2 heures, un interrogatoire dans lequel elle va être accusée d'avoir rédigé et distribué dans des boîtes aux lettres d'un quartier un tract qui met en cause une cadre municipale que vient d'embaucher la nouvelle équipe. Et lors de cet interrogatoire, Sabrina Saïdi, qui s'attendait un petit peu à quelque chose, a enregistré l'intégralité de cet entretien. Un entretien qui a été ponctué d'insultes, de menaces, des « ferme ta gueule », a priori assez fréquent. Un truc, moi j'ai retenu cette phrase, « arrête de faire ton ancienne, je vais te mettre une tarte dans la gueule ». Oui, quand même.
C'est donc, du management, hein, ça, c'est sympa.
Voilà, ça c'est de la collaboration dans une équipe municipale. Alors, très certainement, Monsieur Bartholmé s'est permis cet entretien violent parce que il avait en face de lui une femme, hein, très certainement.
Ça a dû beaucoup jouer, oui.
Alors, ce tract, qu'est-ce que c'était cette affaire de tract ? Alors, c'est un tract anonyme qui reproche donc à la nouvelle municipalité l'embauche de Madame Benacouche. Madame Benacouche, si vous tapez son nom sur un moteur de recherche, vous trouverez essentiellement d'abord des sites d'extrême droite facho qui parlent d'elle, parce qu'ils l'ont beaucoup utilisée. Elle a été condamnée pour une agression sur une femme, elle a été mariée à un membre du gang des barbares, et c'est ce que reproche ce tract, c'est d'avoir embauché cette femme avec ce passif, on va dire. Et pour vous dire, hein, la dernière phrase de ce tract, c'était « Réveillez-vous les Balbiniens, la mairie de Bobigny, excusez-moi, a embauché Al-Qaïda. Hein, » donc c'était quand même une certaine teneur, hein, ce tract, hein, faut pas le nier non plus.
C'est un poil diffamatoire quand même, parce qu'elle avait pas l'air de faire partie d'Al-Qaïda non plus.
Voilà, tout à fait. Alors, là-dessus, il y a eu un procès. En septembre, l'enregistrement a été diffusé lors de l'audience, parce qu'il y a dû faire un espèce de choc. Et donc, Monsieur Bartholmé a été condamné aujourd'hui à un stage de citoyenneté pour ses violences en réunion.
Alors, c'est un maire qui est condamné pour...
Et c'est bien là toute la saveur, hein, un petit peu de la chose. C'est, l'avocat de Madame Saïdi qui le dit, hein, finalement, que c'est pas une mauvaise idée pour qui prétend faire de la politique. Oui. Nous, dans cette émission, on n'est pas pour l'enfermement stupide. Hein, donc, voilà, ça peut avoir du sens dans ce sens-là. Ils vont devoir quand même, Monsieur Bartholmé et Monsieur Mongadam, verser 10 000 euros d'indemnisation, quand même, à Madame Saïdi. Hein, parce qu'il faut quand même pas pousser. Hein, il y a aussi des amendes. Voilà, mais c'était à la fois la dimension on va dire sexiste, hein, de cette intervention, de cette violence en même temps dans une équipe municipale, c'est ça la démocratie donc. Et puis ben voilà, cette, finalement cette condamnation à un stage de citoyenneté pour rappeler peut-être à monsieur Bartholmé comment on se comporte lorsqu'on est en collectivité. Parallèlement à ça, il faut savoir que tu parlais tout à l'heure de diffamation. Madame Benacouche avait attaqué Madame Saïdi pour diffamation justement, puisque Madame Saïdi a plusieurs fois été attaquée, hein, d'avoir écrit ce tract, elle s'en défend. Madame Benacouche a perdu, hein, sur cette affaire, donc Madame Saïdi, bah, voyez, hein, la justice, elle dit que c'est pas moi. Bon, reste que ça met quand même une ambiance très particulière à Bobigny, de tout ça. C'est quand même très particulier, et puis Monsieur Bartholmé est le symbole quand même d'une certaine pratique de la politique en France.
Alors on va rester dans les problèmes de sexisme.
Ouais. On va partir à Europe 1. Alors, vous savez, à Europe 1 comme ailleurs, il y a aussi les syndicats. Il y a eu des négociations annuelles en décembre dernier. Donc voilà, c'est venu jusqu'à nous, à nos oreilles. Ça a été commencé un petit peu dans la presse. Les élus des syndicats, les travailleurs d'Europe 1... on fait savoir que pour lutter contre les problématiques de déséquilibre entre les revenus entre les hommes et les femmes dans les entreprises, et en particulier à Europe 1, la direction avait mis en place un plan de formation de développement personnel à destination des salariés femmes. Donc la réponse d'Europe 1 pour lutter contre la discrimination et le sexisme dans l'entreprise, ce sont donc des formations de développement personnel.
Et pour les femmes ?
Pour les femmes.
En fait, il fallait leur apprendre quoi ? À se taire, à subir les propos ou les faits sexistes sans rien dire ? C'était quoi ? Je me demande.
Il y a eu un communiqué, hein, syndical qui est paru, il y a une phrase qui dit « Alors que les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes à Europe 1, la proposition qui leur est faite cette année de suivre une formation de développement personnel apparaît au pire comme une provocation, au mieux comme une offre un peu, beaucoup, voire complètement à côté de la plaque, rayer la mention inutile. »
Moi, je l'aurais pris comme de la provocation si j'avais été une femme à Europe 1.
Alors, il y a eu des articles, il y en a eu en particulier dans Marianne, c'est pas un canard qu'on aime beaucoup ici, tu me contrediras pas, je
crois. Le populisme de gauche n'est pas mieux que le populisme de droite.
Voilà. Alors, suite à cet article dans Marianne, la direction d'Europe 1 a publié, a demandé un droit de réponse que Marianne a publié sur son site internet. Alors d'abord, bon, c'est pas très content, hein, à Europe 1, à la direction, parce qu'ils estiment que Marianne a donné, mais comme d'autres, hein, une présentation trop tronquée et caricaturale de la politique des ressources humaines d'Europe 1. Ah bah, les élus syndicaux, ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord avec la caricature de ce qu'est la politique Europe 1. Alors, ils expliquent dans leur communiqué qu'en fait, ils apportent une attention très particulière à la rémunération, tout ça, tout ça, tout ça. Donc bon, moi j'ai lu ce communiqué, c'est pas très intéressant. Mais alors, je me suis un peu renseignée sur effectivement sur quoi se base donc ces développements personnels. Ça va se baser sur Elle Active, Elle le magazine, hein, donc c'est une espèce de forum pour les femmes. D'ailleurs, dans le communiqué, on nous invite, hein, dans ce droit de réponse, à nous rendre dans ces forums, qui sont donc organisés assez fréquemment. Donc, je suis allée voir. Alors, il paraît que c'est pas ces forums-là exactement, hein, qui vont être un petit peu certainement amenés à être maniés pour les salariés, femmes, vous l'aurez compris. Mais alors, on sent quand même dans cette Elle Active, on est côté branché pour femmes modernes. Hein. Donc moi, je suis allée voir ce qu'il y avait en ce moment comme proposition donc sur le forum. Alors, on a tout un tas de débats avec des experts. Et puis, le terme d'expert est très important parce que, quand même, ça permet d'être branché pour les femmes modernes. Alors, j'ai le droit entre « je veux booster ma recherche d'emploi », jusque-là, ça paraît normal, « je veux créer et développer mon entreprise », pareil, à peu près dans le même genre. Je veux être geek, pas addict. Ouais, tu peux commencer à sourire. Je veux m'habiller efficace.
Oula, c'est quoi ce truc ?
Alors je suis allée voir, je veux m'habiller efficace. Donc là, c'est pour gagner du temps, élaborer votre garde-robe hebdomadaire idéale et abordable. Et donc, c'est présenté par Anne-Marie Le Cordier, conseil en images.
Dans les formations qui sont pour les hommes, on propose jamais ce genre de truc, quoi.
Non, mais ça, j'espère que c'est pas ça qui va leur être proposé. Ouais, ça, c'est ce qu'il y a sur le forum pour aujourd'hui, hein, de Elle Active, mais j'espère que c'est pas ce genre de choses qu'on va leur fourguer, parce que ça sent un peu ça, quand même. Hein. Alors, j'ai été voir, moi, je veux progresser vite. Je me suis dit, je suis une femme, je veux progresser vite. Moi aussi, je veux du pognon comme les hommes, hein, je veux tout pareil. Alors, donc là, ça se passe, hein, sur toute la journée, entre 9h30 et 17h. Donc, je veux progresser plus vite. Donc, vous avez, par exemple, un rendez-vous, prendre la parole en public, 10 erreurs à éviter, construire et développer son réseau, et à chaque fois donc c'est avec un ou une expert. Donc il y a beaucoup de coachs, je vous le dis tout de suite. Il y en a même un, c'est Gilly Weinstein, il est executive coach des États-Unis d'Amérique. Rendez-vous compte un petit peu la chance que vous avez, mesdames.
Donc il faut travailler européen, hein, là, pour y avoir droit.
Ah oui, oui, il y a des gens d'AXA par exemple qui interviennent, donc il y a aussi des entreprises, et puis il y a un partenariat, il faut savoir, avec Elle Active, avec L'Oréal Paris. Donc est-ce que vous, mesdames d'Europe 1, vous allez avoir droit donc à une superbe formation sponsorisée par L'Oréal Paris ? Je ne sais pas, mais je vous le souhaite pas, hein, parce que il y a sinon maîtriser le marketing de soi. J'ai pas bien réussi à savoir de quoi ça parlait exactement. J'avoue que là, je suis restée un petit peu sceptique. J'ai pas bien compris à quoi ça amenait, cette formation. En tout cas, pendant ce temps, les écarts de salaire, ils bougent pas. Hein, la discrimination, elle est toujours la même. Mais voilà,
Europe 1. Les chefs sont toujours des hommes.
Nous présente donc le nouveau management du 21e siècle. Le coaching et le développement personnel pour les femmes. Mais il paraît qu'ils vont en proposer aux hommes.
Super, la même chose.
Non, mais dans le groupe Lagardère, on a des idées quand même, hein, parce que je vous rappelle que c'est quand même le groupe Lagardère. Alors, on va continuer.
Alors là, du coup, moi je m'oppose.
Toi, tu vas t'énerver, je le sais, oui. Nous allons donc reparler d'Angoulême, du Grand Prix d'Angoulême, donc de BD. Et donc, suite à toutes ces étapes et toutes ces polémiques et scandales dont vous avez parlé dans les éditions précédentes, nous allons donc vous donner la sélection du Grand Prix, puisque je vous rappelle que les auteurs de BD étaient invités à voter pour qui ils voulaient. Au final, hein, ils faisaient bien comme ils voulaient, tous et toutes. Hein, on en était devenus un peu au n'importe quoi. Alors, on a trois noms qui sont sortis. On a Herman, vous connaissez.
Dessinateur très très vieux maintenant, qui continue, hein, qui a sorti un Jérémia, le tome 24 je crois, il y a quelques mois, donc qui est historique, hein, qui a commencé dans la BD, on va dire pour enfants à l'époque, Comanche, les trucs comme ça. Ouais,
moi je suis pas très fan de ces vieilles BD.
Par contre, il a fait le lien avec la BD pour adultes, avec des séries comme Les Tours de Bois Maury qui se passaient au Moyen-Âge, où il y avait des scènes déjà difficiles, et la plus célèbre qui est Jérémia, donc dans un monde apocalyptique, avec de la BD pour adultes, des histoires de sexe, de pouvoir, de fascisme, de plein de trucs. Voilà, un grand de la BD, hein, il a écrit de BD, mais beaucoup, enfin dessiné, parce qu'il est scénariste et dessinateur.
Ouais,
et
puis c'est depuis les années 60, moi ouais. Je suis pas une grande femme, hein, une
moi,
grande fan, mais...
J'adore,
voilà,
c'est un monstre.
Oui, mais après c'est un peu...
BD,
ça, ça, voilà, ça fait des décennies qu'il est là.
Il mérite, voilà. Effectivement, avec le recul, le Grand Prix d'Angoulême pour avoir traversé toutes ces périodes avoir accompagné, ouais. voire incité à la BD de devenir un petit peu plus adulte qu'elle ne l'était avant, hein, où c'était horriblement enfantin.
Deuxième nom qui, là, moi, va me séduire beaucoup plus, à la fois, évidemment, par le travail d'auteur, mais aussi par la personnalité qui est quand même quelqu'un, c'est Alan Moore.
Oui, alors, le gars qui a révolutionné le comics à la fin des années 80, avec donc des choses qui sont devenues célèbres par les films hollywoodiens, V pour Vendetta ou Les Gardiens. Mais voilà, un monstre aussi du comics qui vient d'Angleterre. Donc c'était carrément un sacrilège hein, pour les Américains que ce mec, ce petit Anglais, il arrive et qu'il sorte des scénars qui tombent par terre. Il révolutionne, c'est un grand du comics. Un mec d'extrême gauche.
Ouais, alors il se présente comme anarchiste. Voilà, il vit hors de la ville. Bon, il est un peu bizarre des fois quand même dans certaines de ses idées. Mais c'est vrai que par exemple, moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'il a réussi. Il a voulu casser justement les obligations avec les grosses maisons et il a réussi à casser tout ça, à donner des coups et à s'opposer, à créer son propre monde pour pouvoir publier. Et ça, c'est quand même un truc, une révolution quand même hein, aux États-Unis d'Amérique où tout était bloqué, fermé. Et lui, il a amené ça. Et puis, bon, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, la Ligue des Gentlemen.
Extraordinaire.
Ouais, c'est bon, parce que moi, ça m'amuse ce genre de truc, mais c'est vrai que les Watchmen, c'est quand même vachement bien.
Oui, après, il a fait des choses qui étaient beaucoup moins intéressantes aussi, mais.
Oui.
C'est
quelqu'un de complet, effectivement, qui pourrait avoir le grand prix. C'est-à-dire qu'il y a à la fois son travail, la manière dont il a publié, le personnage, donc voilà. Voilà. Le troisième nom qui, alors toi, t'as fait hurler, puisque de ce dont nous parlions avant de prendre l'antenne, c'est une illustratrice qui s'appelle Claire Wendling.
Alors. Donc dans la série, suite à la polémique, il fallait faire sortir un nom féminin, et ils ont fait sortir un nom féminin.
Mais ça, c'est les votes, hein. Moi je suis pas aussi, voilà.
Oui, non mais
peut-être qu'à quelques voix près, il y avait que des femmes derrière, va savoir, je ne sais pas.
En tout cas, on ne sait pas bien. En tout cas, elle est insignifiante au niveau de la BD, cette femme. Elle a du talent de dessinatrice, je ne remets pas ça en cause. Mais sauf qu'elle a fait une série de BD, quoi.
Ouais, Les Lumières d'Amalou. Moi, j'ai pas lu, parce que je connais pas du tout son travail, je dois vous le dire. C'est sorti chez Delcourt.
Au début des années 90. Donc, voilà, qui a rien changé au monde de la BD, qui a rien révolutionné, qui a marqué quasiment personne. Et ensuite, elle a fait un ou deux trucs par-ci, par-là. Mais comment opposer cette pauvre Claire à Alan Moore et à Herman, si ce n'est que c'est les travers de la discrimination positive aux États-Unis, c'est que finalement on choisit elle pour son sexe parce que c'est une femme et non pas pour on est censé dire qu'elle a fait, elle a eu un parcours important dans la BD, etc. Du coup là on l'a choisi pour son sexe, c'est l'impression que ça donne, puisque
c'est qu'une impression, parce que vraiment, on en sait pas.
Négatif dans la BD. Enfin, malheureusement, et d'ailleurs, c'est pas son premier métier, la BD. Du coup, ça paraît complètement bizarroïde.
C'est plutôt que ce nom est bizarre, moi, je trouve. Que ça soit un homme ou une femme, Claire Wendling, en l'occurrence, c'est plutôt son travail. Et voilà. C'est plutôt là se demander pourquoi les auteurs, elle est apparue dans les noms.
Parce qu'ils ont pas trouvé. Parce que Bretéché, qui est une grande de la BD, elle a déjà eu un prix. Elle peut pas l'avoir. Donc ils sont allés, et après des grandes dessinatrices ou des grandes scénaristes de BD, il y en a pas beaucoup, hein, parce que les femmes ont été discriminées pendant très longtemps dans la BD pour différentes raisons. Du coup, elles sont peu présentes, elles ont encore peu marqué, même si ça a changé hein, depuis 20 ans. Mais enfin voilà, même Chantal Montelier que j'aime beaucoup, elle avait plus sa place que Claire Wendling, quoi. Donc c'est et ça semble totalement artificiel du coup.
Bon, en tout cas, alors, voilà,
moi, ce qui me ferait le plus plaisir et ce qui me ferait marrer, c'est qu'elle ait le prix. Hein. Parce que là, on se marrera hein, quand même.
Hein. Bah, de toute façon,
dans les trois personnes qui ont marqué la BD,
2016, elle va être particulière. Hein. C'est-à-dire que c'est presque l'occasion d'y être, pour voir un petit peu comment ça va être autour des stands et tout ça, parce que je pense que ça va être quand même particulier. Après, c'est bien. J'espère qu'il va y avoir du débat, que les gens vont échanger entre eux et que peut-être que ça va amener aussi des nouveautés. Moi, enfin, je pense que c'est la réponse qu'on doit amener. C'est amener aussi du débat aujourd'hui et que cette édition, elle serve à ça. Si jamais il y a des tabous, si jamais on veut pas en parler, c'est stupide. Il faut avancer là-dessus. Il faut que les gens échangent.
Oui, non, mais ça a beaucoup changé. Des dessinatrices et des scénaristes en BD, il y en a pas mal maintenant. Elles sortent des BD dans tous les genres, hein, en plus, hein, aussi bien de la BD d'action que de la BD intimiste, de la BD indépendante. Donc voilà, elles commencent à faire leur place. Enfin, faut pas que ce soit un truc artificiel comme ça, parce que du coup, ça casse, moi, je trouve, le travail de tout ce qu'elles font de leur côté en qualité pour se faire reconnaître.
Voilà, enfin, on n'aime toujours pas les prix hein, de notre côté. Non, hein. Si on pouvait s'en passer, ça serait pas mal.
Voilà. On poursuit avec une discussion qui a eu lieu au Parlement, en France, autour du monde du logiciel libre. suite à différentes propositions de loi qui ont été données dans le cadre de l'article, c'est l'article 9 très exactement, de cette série de lois dont j'ai perdu le nom. Ça a été proposé par Axelle Lemaire, hein, qui est la secrétaire d'État au numérique. Et de quoi je vais vous parler ? Eh ben, c'est qu'en fait, dans cet article 9 ter, était introduit, ça a été décidé la semaine dernière en commission des lois, hein, où les élus et l'État se réunit pour décider de ce qu'il peut y avoir, ce qui peut être introduit, notamment en amendement, puisque c'est un amendement. Il y avait l'idée d'encourager, d'écrire dans la loi qu'il fallait encourager l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement de l'achat de l'utilisation d'un système informatique. Ça paraît un truc hyper logique aujourd'hui, qu'on oriente vers le logiciel libre, ne serait-ce que pour des raisons d'économie. Donc ça a été porté par des élus écolos, des élus communistes, quelques députés PS à signaler quand même, qui plaidaient pour ce vague encouragement, puisqu'on n'en était qu'au vague encouragement, d'inciter à utiliser des logiciels libres. Et ben voilà, c'est passé à la trappe. Il y a eu une action d'Axelle Lemaire, hein, qui est le bras du gouvernement socialiste, pour s'opposer à cette idée de donner la priorité au monde du libre, hein, que ça soit sur la forme de logiciels ou sur la forme des formats, hein, qui pourraient être libres. Donc non, ça a été refusé manu militari. Alors la position était indéfendable, hein, pour Axelle Lemaire, parce que si elle s'y connaissait vraiment en numérique, elle pouvait pas le défendre. Du coup, elle est à côté de la plaque tout le temps et elle se fait attaquer, notamment par André Chassaigne, l'élu communiste, qui l'accuse d'emberlificoter les choses par manque de courage politique, et voilà, il a totalement raison. Du coup, c'est exactement ça, parce que elle sort des phrases complètement abscons, complètement incompréhensibles. Je vais en citer une. En droit, soyons honnêtes, il existe des incertitudes. Est-ce que le fait de donner une priorité à un type de produit, de logiciel, de technologie plutôt qu'à un autre pose un problème en droit de la concurrence, en droit du commerce et de l'industrie, en droit de la libre entreprise? Cette priorisation serait de portée très générale et, me dit-on, trop imprécise. Et en droit communautaire, la directive récente qui a été prise sur les marchés publics semble restreindre encore la possibilité d'orienter vers l'achat par les adjudicateurs publics d'un produit particulier. Comment répondre à un truc simple avec une phrase comme ça qui veut à la fois tout dire et rien dire? C'est fait exprès d'utiliser un langage comme ça incompréhensible. Et en plus, elle est pleine de mauvaise foi, puisqu'elle est allée à la fin jusqu'à dire, sous forme de provocation, je cite, « Je suggère que tous les députés qui ont des iPhones dans cet hémicycle s'en séparent immédiatement pour être en conformité avec leurs principes. » On rappellera qu'à Madame Axelle Lemaire qu'il est très difficile d'avoir un système libre sur les smartphones, hein, puisque ceux qui ont essayé n'y arrivent pas, Ubuntu n'y arrive pas, Ubuntu Phone, on n'en voit pas, le Firefox Phone, l'OS Firefox pour les smartphones a été arrêté. Donc oui, c'est de la totale mauvaise foi, du mensonge. Tout ça pour se faire le porte-parole des multinationales du numérique. C'est quand même pas très glorieux d'avoir tout ça. Alors que, donc, au final, ce sont les administrations, notamment au niveau local, qui décideront, hein, si elles prendront un logiciel libre ou pas. Quand on sait que ces administrations, elles sont beaucoup plus influençables par les lobbies des multinationales, Microsoft, Apple ou je ne sais qui, hein, et ben voilà, on a ce qui va se passer, ce qui continue de se passer. On le voit très bien à Lyon, où le maire de Lyon dit qu'il faut utiliser Microsoft, fait des accords avec Microsoft, qui ont un coût énorme, alors qu'ils prendraient LibreOffice, ça coûterait rien du tout. Hein, donc voilà, ces gens dits socialistes sont vraiment à la botte du patronat et ça se voit vraiment. Hein, alors que la majorité du temps ils nous parlent de faire des économies, quand on a des systèmes simples, libres, qui nous permettent de faire des économies, ils en veulent pas. Tout ça pour faire plaisir à leurs amis patrons, c'est quand même très très triste.
Ouais, enfin, on pourrait rappeler que M. Collomb ne fait pas juste ami avec le patronat, c'est-à-dire qu'il n'est pas à leur botte. Il faudrait rappeler que M. Collomb était lui-même patron. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que en fait c'est les mêmes.
De leur monde.
Voilà, c'est plus simple que ça en fait. Alors, on va parler sport. Alors, j'aurais pu vous parler foot pour vous donner des nouvelles de M. Platini. C'est vrai.
Ouais,
ils en sont où?
Ou de Monsieur Aulas, tu peux pas parler un peu de Monsieur Aulas, on en parle.
Non, mais j'aurais pu vous parler d'athlétisme aussi, et puis du scandale en cours au sein de la Fédération internationale d'athlétisme, la corruption, hein, des belles enveloppes, des belles valises de billets. J'aurais pu vous parler de tennis, avec la nouvelle affaire révélée hein, par BuzzFeed et la BBC, puis avec une enquête dessus hein, qui vous parle des tennisman qui auraient été corrompus pour perdre des matchs. Oh. Et ça concernerait une vingtaine de personnes quand même, avec un certain nombre de têtes d'affiches hein, quand même. J'aurais pu vous parler de tout ça, et ben j'ai choisi de vous parler des JO de 2016 à Rio. Ça se passe pas très bien, vous le savez, c'est pas facile. Les JO sont moyennement bien accueillis, comme toujours. Le pays dans une situation politique et économique un peu délicate. Et ben, l'organisation des JO 2016 a annoncé un nouveau plan d'économie. C'est pas le premier, mais je sais pas si ce sera le dernier. Alors, il y a une nouvelle coupe budgétaire assez importante. Je vous rappelle que ça va se passer du 5 au 21 août prochain, ces fameux JO. Alors, il doit y avoir une belle tribune flottante sur la lagune. Pour les épreuves d'aviron, bon, bah, il y aura plus de tribune flottante, hein. On enlève la tribune flottante, trop cher. Il devait y avoir aussi 70 000 bénévoles, il y en aura plus que 50 000. Trop cher, parce qu'en fait, bah oui, il faut les former, il faut des uniformes.
Il faut les nourrir.
Et voilà, donc tout ça, mais c'est plus possible. Donc, par exemple, il n'y a plus de formation en anglais. Hein, ça va être sympa, je pense. Il y avait aussi un certain nombre de véhicules fournis par les sponsors. C'est Nissan. Il doit y avoir 5000 véhicules, mais il n'y en aura plus que 4000 parce que bah, c'est les assurances, c'est les chauffeurs, donc tout ça, c'est trop cher. Il devait y avoir des télévisions dans toutes les chambres des athlètes. Bah, il n'y en aura que dans la partie commune de l'appartement, parce que ça coûte trop cher. Les pauvres chéris, rendez-vous compte. Il devait y avoir des lieux en dur construits pour accueillir les fédérations, les comités, le comité international olympique. Bah, finalement, ils auront droit à des tentes. Il n'y aura que le lieu, l'enceinte réservée au contrôle antidopage qui sera construit en dur. Donc voilà, il y a plein de petites choses hein, comme ça que j'ai repérées qui vont être enlevées, tout simplement. Hein. Il faut faire des économies. Alors il paraît que d'après monsieur Andrada, qui est le porte-parole du comité d'organisation Rio, c'est un budget malgré tout très équilibré. Alors il y a quand même des voix qui s'élèvent en disant bon, côté billetterie, vous en êtes où? Parce qu'il paraît que c'est un peu lent au niveau du démarrage. Alors monsieur Andrada, il est pas bête, il donne un chiffre, il dit nous avons déjà vendu 74% des tickets d'entrée. Sauf que quand on regarde un peu les chiffres, ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, il y a 74%. Sauf qu'au Brésil, il n'y a que 50% des places qui sont pour l'instant parties. Parce que je vous rappelle que tout ça est saucissonné hein, par rapport au territoire, au pays, voilà, et aux différentes fédérations nationales. Donc chacun son petit quota. Et la vérité, c'est qu'en fait, ce sont les places vendues aux particuliers qui ne partent pas. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être bien qui sont partis pour les entreprises, pour les sponsors, mais pour le reste, ça part pas. Et c'est sur là où ils sont un peu emmerdés, parce que quand même, les stades, il va falloir les remplir. Mais bon, il paraît qu'ils sont pas inquiets. Alors par contre, la cata, c'est pour les Jeux Paralympiques, qui seront au mois de septembre. Il y a 3 millions de tickets à vendre, il y en a 300 000 qui ont été vendus, donc c'est un peu une cata pour l'instant, ouais, au niveau de la billetterie. Bon, alors il paraît que tout avance, hein, que tout est bien construit, sauf qu'il y a quand même encore des petits soucis, des petits soucis, un peu comme à Tokyo, avec leur stade, hein, les mêmes problématique, c'est l'entreprise municipale d'urbanisation qui a rompu aujourd'hui un contrat avec le constructeur du stade de tennis pour ces Jeux Olympiques. C'est un consortium hein, qui était chargé de le construire. Alors il paraît qu'il y a des retards, des défaillances financières, donc la municipalité a infligé une amende, a cassé ce contrat, donc maintenant tout le monde se demande bon ben, il faut encore finir ce stade de tennis. Donc comment on va faire? Mais il paraît que toujours tout va très très bien. Alors on ne sait pas bien, est-ce qu'ils veulent réduire des coûts? Est-ce qu'ils veulent essayer de récupérer de l'argent? Est-ce qu'eux-mêmes en ont plus, donc ils ne savent plus non plus comment faire avec leurs partenaires? C'est un petit peu curieux. Et puis il reste cette grande difficulté, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il faut dire que ça fait un peu causer, c'est l'état des eaux, pour ceux et celles qui vont aller se baigner. Pour conquérir.
Ouais, ils ont des combinaisons.
Hein, parce qu'il paraît que les eaux, c'est crado, quoi. Ouais. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'athlètes hein, qui ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir y aller. Ils n'avaient pas envie de crever en allant gagner une médaille. À Rio, on dit, mais si, on a réussi à assainir les eaux de la baie, sauf qu'il y en a qu'on doute encore, parce qu'a priori, il y a eu des progrès, mais bon, il faut dire qu'ils partaient de bas. Voilà, donc, bon, ça va être super le sport, moi, je pense, bientôt. Entre ça. Ah ouais, d'ailleurs, il paraît que la métropole de Lyon recherche 350 volontaires pour l'Euro 2016. Je vous rappelle que c'est bientôt aussi. Hein, si vous avez envie de vous éclater pour le sport capitaliste, eh ben, allez-y.
Alors, on va parler un peu de bio aujourd'hui. de légumes et de fruits bio avec une loi qui est passée au Parlement et qui est plutôt positive. Tout à l'heure j'étais négatif, mais là c'est plutôt positif. Alors certes, c'est un tout petit pas en avant vers des repas dans les cantines scolaires, puisque c'est de ça dont il est question, 100% bio et 100% locaux, mais c'est un pas supplémentaire qui vient d'être franchi. C'était le 14 janvier dernier à l'Assemblée nationale, puisque les députés ont adopté, alors c'est en première lecture, il faut encore que ça passe au Sénat et que ça revienne, mais pour l'instant, à l'unanimité, une proposition de loi qui vient des écolos, qui prévoit 40% de produits issus de l'alimentation durable, locale et de saison, d'ici 2020. Donc c'est plutôt pas mal, et dont dans ces 40%, enfin non, ces 40% plus 20% en tout qui doivent être issus de l'agriculture biologiste. Donc il y a une vraie volonté que dans les cantines scolaires, ça progresse, hein, qu'on mange local, on mange des produits de saison et le plus bio possible. Alors depuis 2012, il y a quelque chose qui impose, une loi qui essaye d'inciter, mais malheureusement ça progresse pas. Et c'est très très loin de l'ambition, hein, puisque le plan Ambition Bio 2017, ça s'appelait comme ça, avait fixé à 20% de bio dans les repas des cantines. Donc pour 2017, on en est très loin. Bon, on n'est pas encore en 2017, vous allez me dire, mais voilà, on n'atteint même pas les 5%, donc c'est catastrophique. Alors, dans les aspects positifs de ceux qui ont introduit le bio, ça change pas toujours grand-chose, mais quelquefois, ça oblige à changer de pratique, les cantines scolaires, parce qu'elles sont, alors notamment ce qu'est d'acheter des produits locaux, où on est obligé donc d'acheter des produits de saison, et là, ils sont obligés de recuisiner des choses un peu différentes et d'être créatifs s'ils veulent que les gamins mangent. Hein. Que ça soit bon. Donc voilà, c'est un côté positif sur la culture de la bouffe, c'est un côté positif sur tout, et notamment sur le travail des paysans autour des cantines scolaires, puisque il faut que ce soit local. Donc voilà, ce projet de loi va dans le bon sens. Et dans le même temps, il y a pas mal d'études qui ont analysé le bio et l'intérêt de manger bio. Et ces études nous rappellent que les arguments utilisés qui disent qu'il faut manger bio parce que c'est mieux, c'est meilleur à la santé, etc., sont totalement fallacieux, hein, puisque ça n'est pas meilleur à la santé de manger bio. Il y a de grosses études, hein, notamment, alors il y a les études françaises de l'AFSA, mais bon, de l'INRA, de choses comme ça, mais on a toujours des doutes sur ces gens, hein, parce qu'ils sont partie preneur ou prenante avec l'industrie agroalimentaire, du coup, qui est en 100% opposé au bio. Donc on a toujours des doutes sur leurs études. Mais il y a de grosses études britanniques, celle qui date de 2009, une grosse américaine de 2012, qui sont allées étudier les différences de composition chimique des fruits et des légumes issus de l'agriculture biologique et de l'agriculture traditionnelle. Et il n'y a pas beaucoup de différences. Alors certes, certains fruits sont plus riches en polyphénol, certains légumes sont plus riches en vitamine C, en magnésium et en fer quelquefois, mais ça reste très très faible. La grosse différence qui existe, et c'est quasiment la seule, c'est sur les résidus de pesticides, où effectivement on est à 11% de résidus de pesticides dans l'agriculture bio, qui sont des contaminations indirectes. Et donc, quand on analyse n'importe quel produit issu de l'agriculture non bio, c'est 46% avec des produits dangereux à la santé. On vous rappelle que si vous achetez une pomme qui est pas bio, c'est pas une bonne idée de manger la peau, même si vous la lavez pendant 5 jours, hein, parce que ça rentre dedans. Bon, il y a le problème des pesticides, mais est-ce que ça a un impact? Alors, il y a une grosse étude anglaise qui, elle, a étudié pendant 9 ans 600 000 femmes qui mangent bio et qui ne mangent pas bio, pour voir si ça avait un impact sur le nombre de cancers. Et sur les cancers dits communs, ceux qui sont les plus répandus, ils n'ont pas trouvé d'impact. Alors, grosso modo, si on regarde ça, les conclusions, c'est que le bio, ce n'est pas meilleur à la santé. Bon. Mais vous allez me dire, on le savait déjà. Parce que ce n'est pas le but. Parce que le bio, ce n'est pas bon à la santé directement. Et il faut rappeler que le bio, c'est bon à la santé pour tout le monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui mange bio, il aide celui qui mange pas bio, puisque celui qui mange bio, son légume a été cultivé dans une terre qui n'est pas gorgée de pesticides, donc ça n'a pas pollué la terre, ça n'a pas pollué l'air, ça n'a pas pollué les rivières, et finalement c'est bénéfique sur les cancers, sur la santé en général, mais pour tout le monde à long terme. Alors pour l'instant, tant qu'il y a qu'une faible partie de la population qui mange bio, l'impact y reste relativement faible, mais plus il y aura de personnes qui mangeront bio, plus cet impact va grandir et les rivières arrêteront d'être polluées, les champs arrêteront d'être pollués et on arrêtera de respirer de l'air pollué. Hein, ceux qui habitent autour de champs cultivés en non bio, ils sont très intoxiqués. On le sait déjà, il y a des études qui l'ont démontré. Donc voilà, ces différentes études rappellent qu'il ne faut pas utiliser les faux arguments pour dire qu'il faut manger bio. Hein, quand on voit les parents qui achètent des compotes bio pour leurs enfants et qui, eux, achètent des fruits non bio pour eux, en disant c'est mieux pour la santé de nos gamins, ça ne changera rien du tout sur la santé directe. Mais par contre, c'est un investissement sur l'avenir. Voilà. En plus, bon, dans les différents rapports, les conclusions montrent que ça ne coûte pas forcément plus cher de manger bio, local et non industriel. Si vous achetez un plat cuisiné qui soit bio ou pas bio, ça change pas grand chose parce que le coût est plus élevé. Mais en général, les gens qui se consomment bio ne consomment pas de produits industriels non plus.
Ouais. Alors moi, ce que j'allais un peu te demander, est-ce que le risque, c'est pas finalement aussi que les industriels qui produisent du bio, hein, on en trouve beaucoup dans les supermarchés maintenant, est-ce que le risque, c'est pas qu'ils fassent en Moldavie du vin bio et puis qu'ils nous le vendent ici et que finalement, ça amène pas d'avancée au niveau local, parce que c'est aussi le risque, c'est qu'ils aillent, j'ai pris le vin, mais on aurait pu prendre la courgette je ne sais où, en Europe, dans un pays où la main d'œuvre est moins chère.
Si, parce que si votre courgette bio, elle vient d'Espagne. D'habitude, vous achetez de la courgette pas bio qui vient d'Espagne aussi. Et au moins ceux qui ont récolté la courgette en Espagne, ils seront pas contaminés. Les sols espagnols ne seront pas contaminés. Ton vin moldave, t'achètes du vin moldave, toi ? Du vin moldave. Au moins les champs en Moldavie seront pas contaminés et les gens autour, ils boiront de l'eau non contaminée, etc. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est pas produit localement, c'est toujours mieux d'acheter bio que pas bio, puisque au moins vous aidez les gens qui habitent pas loin de ces exploitations-là, même si c'est en Moldavie ou en Espagne, à ne pas être contaminés par l'industrie. Bien sûr, il vaut mieux manger local, c'est encore évidemment bien mieux.
Alors, on va reparler du Renault Get.
Le Renault Get. Alors, c'est Renault, l'entreprise industrielle automobile et pas le chanteur.
Exactement. La semaine dernière, vous parlez du track de la CGT, des révélations sur les perquisitions. Alors, ce qui est drôle, c'est depuis la réaction de la CFDT, dont nous parlions déjà tout à l'heure, et de FO, qui ont jugé que le tract et les informations de la CGT étaient finalement prématurées. C'est-à-dire que la CFDT, la semaine dernière, avait bien dû admettre qu'il y avait du perquisition. On se demande bien ce que la CFDT et FO espèrent en annonçant un truc pareil. C'est quoi, que ça n'allait pas se savoir, les perquisitions? C'est reculer pour mieux sauter? On sait pas bien, hein, finalement, à quoi ça sert d'aller critiquer ce qu'a fait la CGT, qu'après ils se foutent sur la gueule entre eux, ça c'est encore autre chose, mais je veux dire, voilà, ça a pas trop de sens. On rigole avec Renault quand même, puis avec madame Ségolène Royal, on rigole aussi beaucoup, je vous rappelle, notre ministre de l'Environnement. J'allais mettre des guillemets, pardon.
Non, tu t'es trompé, c'est la ministre de la destruction de l'environnement. Ils ont mis un mot dans le ministère.
C'est pour ça que j'avais laissé un petit blanc derrière. Alors donc, on a appris que Renault allait rappeler 15 800 véhicules, puisque madame Royal est montée au front pour dire qu'il y avait quand même un souci. Hein. Je vous rappelle que tout ça fait suite à l'affaire
Volkswagen,
où donc il y avait une fraude aux normes anti-pollution. Alors, on rappellera qu'avec Renault, il n'y a pas eu de petits appareils, de petits logiciels anti-fraude. Ce que Madame Royal a constaté en demandant des tests, c'est que en test et en conditions réelles, il y a un dépassement de normes.
Parce que Renault triche comme tous les autres constructeurs.
Alors en fait, c'est pas de la triche. Au niveau, quand tu regardes, quand tu regardes les règlements,
il y a une tolérance au niveau des directives européennes. Et ils abusent de cette tolérance.
Et c'est même pas ça. C'est qu'il y a des normes, mais en laboratoire. Et donc Madame Royal, elle peut bien faire tous les tests qu'elle veut dans la rue. Les normes sont pas les mêmes et elles n'existent pas en conditions réelles.
Oui,
donc,
mais sauf que les
déjà
normes...
à la base, oui, mais elle a biaisé déjà
oui,
les tests.
Mais ils trichent quand même, puisque les normes en laboratoire, on est censé tester la voiture. Or, ils enlèvent l'alternateur de la voiture pour consommer moins.
Mais j'ai pas dit qu'ils participaient pas.
Ils enlèvent la crime.
Hein,
et voilà, ils trichent quand même et c'est toléré cette tricherie. C'est ça qui est horrible.
Donc, on apprend donc qu'il va y avoir ces 15 000 1800 véhicules. Alors, Renault, bah, de fait, ne fait rien d'illégal, donc pourrait très bien dire au gouvernement et Madame Royale. Sauf que, bon, Renault a tout intérêt à garder de bonnes relations avec son principal actionnaire, je vous rappelle. L'État n'est pas tout à fait impartial dans cette affaire. C'est pour ça que Madame Royale fait aussi beaucoup de bruit, agite les bras, mais ne fait pas non plus grand-chose. Et moi, je trouve biaise, finalement, tous ces tests, en les rendant un petit peu caduques, et à part nous dire qu'ils ont triché, oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, dans les faits, ça aide pas beaucoup. L'État a une belle participation, hein, quand même. En 2015, 80 millions d'euros de participation. Donc, bah, ça fait rentrer des sous. Hein, donc, on va pas trop non plus taper sur Renault. C'est un peu la position, je trouve, de l'État, de M. François Hollande et de Mme Ségolène Royal. Alors, ce qu'il faut... Là où j'ai entendu aussi un certain nombre de critiques, c'est qu'il y a ces 15 800 véhicules qui concernent le Captur, c'est un crossover de Renault. C'est l'une des voitures les plus vendues en 2015. En 2015, on parle de 72 000 exemplaires. Il y a les Échos qui ont fait un petit calcul, et eux, ils estiment, attention le chiffre, à 700 000 véhicules Renault qui devraient être appelés. 15 800 véhicules, pour beaucoup quand même, un petit peu de journalistes de la presse spécialisée que j'ai pu un peu lire, c'est ridicule. C'est en fait faire croire que tout va bien se passer. D'autant plus que Renault, en communiquant, explique en fait qu'ils vont pouvoir réparer le problème. Donc Renault est en train de nous dire qu'en fait ils savent gérer là.
Ouais, ils vont régler le moteur, soi-disant.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une espèce d'astuce pour nous faire croire qu'en fait, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de fraude, il y a juste quelque chose qui était finalement mal réglé, c'est une problématique technique, et qu'ils vont pouvoir résoudre. Sauf que, ben voilà, en face, on dit que 15 800 véhicules, c'est peut-être un peu pas assez pour que c'est, finalement les véhicules soient remis à des normes anti-pollution à peu près acceptable, ou en tout cas de ce qui devrait être une certaine norme. Voilà, donc l'État, par le biais de Madame Royale, joue quand même beaucoup avec Renault pour essayer de calmer un peu cette affaire. Alors moi, je pense que quand même dans les bureaux des constructeurs automobiles, on doit quand même en vouloir pas mal à Volkswagen de s'être fait pincer, hein, parce que c'est un peu la merde de partout. Et bah, Renault, voilà, s'est fait un peu aussi taper sur les doigts, même si finalement tout le monde minimise l'affaire bien tranquillement.
Alors on va parler un peu de TAFTA maintenant, donc, qui est cet accord de libre-échange qui est en train d'être négocié dans notre dos. Et on va parler de la coopération réglementaire qui est contenue dans TAFTA. C'est un des gros trucs qui est dans TAFTA. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un jargon technique, hein, pour dire que c'est la procédure de négociation pour fixer les normes et les règlements encadrant la fabrication d'un produit, la commercialisation d'un service, quel que soit le secteur économique concerné, quel que soit le secteur technique concerné. Alors cette négociation entre plusieurs États se déroule normalement avant que les normes soient adoptées par les différents parlements, et ça a pour but de faciliter le commerce, parce que comme ça tous les produits sortent avec un standard commun, et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Sauf que, et c'est l'ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory qui a sorti un rapport le 18 janvier dernier et qui nous explique tout ça, ce principe, cette coopération réglementaire, c'est un système antidémocratique, puisqu'effectivement, avant que ça passe devant les parlements, tout est négocié entre les États et les entreprises, les multinationales, ce qui fait qu'elles y mettent ce qu'elles veulent. Et alors, ils sont assez efficaces, cette ONG, puisqu'ils ont étudié, comme ça, plusieurs exemples, pour montrer comment, jusqu'à maintenant, alors que jusqu'à maintenant, c'était un principe qui était plus ou moins utilisé, après, ça va être écrit dans le TAFTA et ça sera systématique. Eux, ils ont regardé ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Par exemple, sur les produits cosmétiques, en 1993, l'Union européenne projette d'interdire la mise sur le marché des produits cosmétiques qui sont testés sur les animaux. On est en 1993. Une bonne chose. Hein, on sait que c'est totalement inutile, que ça fait souffrir les animaux. On a déjà beaucoup parlé de ça. Donc il y a un groupe de dialogue transatlantique inter-entreprise qui se met en œuvre et qui négocie pour que la proposition soit repoussée et que les interdictions soient limitées, et que ça apparaisse pas tout de suite, etc. Grosso modo, ils ont fait cette coopération réglementaire avant l'heure, on va dire, avant que ce soit inscrit dans ce traité de TAFTA. Bilan. Le Parlement n'a pas cédé, mais il a fallu attendre 2002, donc 93-2002, Voilà, pour que ça passe au Parlement européen. Donc ils sont arrivés à gagner une dizaine d'années. Alors il y a d'autres cas encore pires, hein, où ils arrivent à repousser comme ça, au niveau réglementaire, des choses de 10, 15, 20 ans plus loin. Donc ce groupe de travail, là, le Corporate Europe Observatory, donc une ONG belge, propose plein d'exemples pour montrer que cette idée de coopération réglementaire, c'est-à-dire de préparer finalement les choses avant que ça passe dans les parlements, ça attaque notre démocratie, en tout cas le pouvoir des peuples, puisque à la fin les parlementaires votent, parce que bon, ils comprennent pas grand-chose aux choses, ils sont pas spécialistes, et finalement ils votent ce qui a été négocié. Donc c'est une des choses horribles, hein, qui est dans ce TAFTA, ce traité international de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Mais il y a aussi, vous le savez, hein, le fameux tribunal, donc ça s'appelle le mécanisme de traitement arbitral des conflits entre États et multinationales, hein, c'est là où les États sont condamnés, notamment quand on a des politiques de santé publique ou des choses comme ça. Enfin voilà, si vous avez l'occasion, allez voir leur travail, c'est très très bien fait, ce que fait cette ONG, parce qu'ils, voilà, ils donnent plein d'exemples. Si vous voulez des arguments pour dire voilà pourquoi TAFTA c'est une horreur, pourquoi cette coopération réglementaire va à l'encontre de ce qu'on veut obtenir, ben voilà, il faut aller voir. C'est très très important, parce qu'on parle assez peu de TAFTA, hein, quand même en France. Dans des pays d'Europe, ils en parlent beaucoup plus. C'est quand même toujours négocié dans notre dos. Puis pour terminer ce qui est New Info, on va parler un peu d'énergie. On va commencer par EDF. Donc le géant du nucléaire français a annoncé une réduction d'effectifs de 5% sur les deux ans qui viennent, hein, 2016-2018, pour s'adapter, bah, d'abord à la baisse. Hein, puisqu'ils vont subir une baisse des ventes de l'électricité. Alors ça fait réagir les syndicats, qui ont appelé déjà des mouvements de grève, hein, qui ont déjà protesté. Il y avait une grève aujourd'hui. Hein.
Oui, il y avait une à Lyon, oui.
Ouais, et puis à plusieurs endroits. Faut dire que les syndicats remettent en avant le problème d'EDF, c'est qu'ils ont beaucoup acheté à l'international, qui investissent dans des choses à perte, comme les deux EPR là, en Angleterre, où ils comprennent pas, les salariés, pourquoi ils vont investir dans des centrales nucléaires. On a vu l'EPR en Finlande ou l'EPR en France, ça marche pas bien, hein, en tout cas. Pour l'instant, la construction coûte une fortune, plutôt que d'essayer d'améliorer l'entreprise en France. Donc voilà, ça bouge un petit peu sur EDF. On espère pour eux qui leur mobilisation va faire plier la direction. Enfin, c'est pas sûr. On rappelle quand même que la direction, c'est aussi l'État français, hein, qui est le bras armé de l'entreprise, puisqu'ils détiennent 85%. Et alors, en parlant d'énergie, il y a chaque année un bilan sur la transition énergétique allemande qui est remis par un groupe qui s'appelle Agora Energiewende. Alors, donc c'est un allemand, ça veut dire transition écologique, je crois bien. Donc ils ont donc sorti là au mois de janvier le bilan pour 2015 sur l'Allemagne, et ça casse pas mal de préjugés sur l'Allemagne. Alors à savoir qu'aujourd'hui, enfin en 2015, l'Allemagne a produit plus d'électricité par le renouvelable que par le nucléaire. On sait qu'ils sont dans une phase d'abandon nucléaire, mais elle a juste commencé. Et ils nous expliquent pas mal de choses. Notamment sur les énergies renouvelables, pardon. Donc ils ont atteint un record en 2015, près d'un tiers de la consommation électrique allemande, hein, plus de 30%, vient du renouvelable. Très exactement 32,5% en 2015, c'était que 27% en 2014, donc ça progresse énormément. Donc c'est ils ont fait énormément d'efforts. La consommation électrique a augmenté en Allemagne de 0,8%. Alors ça, c'est le côté négatif que dénonce c'est un think tank, hein, qui accompagne la transition énergétique en Allemagne, parce que pour eux, ça devrait diminuer la consommation, puisque l'Allemagne s'est engagée dans des grandes campagnes d'économie. Et là, ils sont pas très contents. Alors certes, ça, par rapport à l'augmentation du PIB qui est de 1,7%, l'électricité a augmenté que de 0,8% en consommation. Donc ils ont la moitié de gain déjà. Mais c'est pas assez, puisqu'il faut qu'ils réduisent de 50% la consommation électrique des Allemands d'ici, je sais plus quelle date, 2030 ou 2050. Bon, donc ils y vont. Là, ils critiquent. Ils disent que les politiques mises en place sont pas encore super efficaces. Alors, ils font le bilan aussi sur le nucléaire et le gaz, hein, qui ont produit moins d'électricité que l'année dernière. Le charbon qui produit toujours beaucoup, hein, 42% de la production en Allemagne. Alors contrairement à la propagande habituelle, c'est pas parce qu'ils ont fermé deux centrales nucléaires qu'il y a plus de charbon. Il n'y a pas plus de production au charbon qu'avant. L'Allemagne a toujours été aux alentours de 40% de production d'électricité par le charbon. Mais toutes les arrêts de centrales pour l'instant ont été compensés par du renouvelable et pas du tout par du charbon. C'est ce que redit ce rapport. Ce rapport nous explique aussi que ils ont battu le record de production d'électricité et d'exportation d'électricité puisqu'ils ont augmenté leur production, d'ailleurs leur exportation, d'ailleurs c'est essentiellement vers la France qu'ils exportent, parce que la France importe de l'électricité maintenant. Enfin voilà, il y a plein de fausses idées sur l'électricité en Allemagne qui sont données, notamment sur l'augmentation du prix de l'électricité, qui n'est pas liée à la transition énergétique, mais qui est liée au choix qu'ont fait les Allemands, hein, choix qui est assumé de payer un peu plus cher pour consommer moins, puisqu'ils s'engagent dans des réductions importantes, hein, de la consommation, 5% de ces dernières années de consommation en moins, et ça va continuer. Donc voilà, on va s'arrêter là, parce qu'il nous reste 30 secondes avant de laisser la place à
Papillon.
Papillon, voilà, j'avais perdu le nom de l'émission de Radio Doux qu'on diffuse sur Radio Canu. Un petit agenda très très court, avec une soirée à la CGA demain soir, la Boom Super Féministe demain soir aussi, le 22 janvier, 4 impasse Flessel au lavoir public, 19h minuit. Super Féministe, c'est un groupe qui est issu du planning familial, hein, qui a fait pas mal de choses ces dernières années. Un débat à la Griffe, à la librairie La Griffe, samedi à 15h, autour d'un livre qui s'appelle Les Nains de Li Jiuqi. Bon, même si j'ai mal prononcé, ça nous parle des femmes qui n'ont pas de père, pas de mari en Chine. C'est une cave.
C'est super intéressant.
Voilà. Un truc un peu bizarre qu'on ne connaît pas du tout.
Non, mais c'est super intéressant. Ouais, ouais.
Et mardi, la grève, on sera le 26 janvier, grève et manifestation pour la défense du service public, donc c'est essentiellement les fonctionnaires qui sont appelés à se mobiliser, mais si vous pouvez aussi, n'hésitez pas, il y a la manif, elle part à 10h, place Jean Massé, en direction de la préfecture. Voilà, il est 20h passé de 35 secondes sur la plus rebelle des radios.
Demain, on se retrouve nous la semaine prochaine.
Voilà, demain soir pour le Canu Info, c'est à 19h, et tout de suite, on écoute Radio Dio pour cette émission Papillon.
Ciao.
Enfin, ça va venir, hein. Il y a juste un petit souci technique, mais si, et presque. Ah, bon, on a dit presque. Presque, c'est pas tout à fait encore. Allez, vas-y. Alors, c'est un problème technique. La technique, c'est toujours un peu compliqué. On a un ordinateur qui récupère le flux de Radio Audio et qui va le diffuser sur la plus rebelle des radios. Alors, on va trouver la solution.
Sur mon avant-bras. Tu sais, je crois qu'ici, il ne... Un numéro.